contretemps. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Temps contre Temps, une émission qui a le plaisir de mettre en rencontre, en dialogue, en réflexion, un académicien, une académicienne. Aujourd'hui, le professeur Lucien Israël. Professeur, bonjour.
Bonsoir.
Lucien Israël, docteur en médecine. Vous avez été tout d'abord interne des hôpitaux de Paris, puis chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, c'était en 56. Chef de médecine à l'hôpital Lariboisière de Paris en 71. Et enfin, chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Parallèlement, vous avez exercé des fonctions dans l'enseignement supérieur médical, en tant que maître de conférence agrégé de pneumologie, professeur de cancérologie à la faculté de médecine de Paris et professeur titulaire de cancérologie à l'université de Paris 13 et professeur émérite. Lucien Israël, vous avez rédigé une quinzaine d'ouvrages, dont la majeure partie de ces livres concerne la lutte contre le cancer. Mais nous trouvons en 84 « Face cachée », une série de poèmes, « L'oiseau qui retournait dans son pays », des poèmes également en 1995, et notre livre, le livre sur lequel nous allons baser notre entretien, notre réflexion aujourd'hui, « Cerveau droit, cerveau gauche », paru chez Plon, « Culture et civilisation ». Aujourd'hui, avec nous, devant les micros de Temps contre Temps, Nathalie Ray. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, vous êtes à l'école normale supérieure, en quatrième année. L'année dernière, c'était l'agrégation de biologie. Et cette année, en juin, c'est le DEA qui vous attend. DEA de philosophie et histoire des sciences. Vous vous destinez à l'enseignement, Nathalie.
Oui, c'est ça.
Donc, des questions qui tournent autour de cerveau droit, cerveau gauche. Et une première question qui vous vient tout de suite à l'esprit, Nathalie.
Alors, en tant que cancérologue, j'aurais aimé vous demander pourquoi vous êtes interrogé sur une question qui traite plutôt de neurologie, à savoir l'asymétrie du cerveau, qui traite quand même toute la première partie de votre livre. Et dans une deuxième partie, pourquoi vous êtes passé de cette neurologie à toute une sociologie où vous recherchez finalement ce cerveau droit parmi toutes les manières de communiquer que nous connaissons dans cette société, dans notre société occidentale, et qui constitue la deuxième partie de votre livre.
Écoutez, la réponse ne sera pas simple, mais c'était surtout j'ai écrit ce livre parce que je voulais m'interroger sur les cultures et les civilisations et leurs différences, c'est le sous-titre du livre, et il se trouve que j'ai été amené à fréquenter un certain nombre de cultures différentes, en particulier la culture américaine et la culture japonaise, mais la raison pour laquelle je suis sorti de ma spécialité pour écrire ce livre, c'est que j'ai pas trouvé à le lire. Si j'avais pu le trouver, j'aurais été ravi. Ça n'a pas été le cas, j'ai donc consulté à peu près 400 ouvrages de façon à me faire une opinion sur ce qui se passe dans le cerveau des différents représentants d'Homo sapiens sapiens.
Et alors justement, vous semblez avoir écrit ce livre pour vous-même finalement. Et,
pour beaucoup.
Et j'aimerais savoir à qui vraiment vous adressez ce livre, parce que quand on le lit, vous parlez dans votre dédicace d'un livre adressé à des gens de bonne volonté qui veulent défendre la culture, finalement, la culture du monde occidental qui, selon vous, semble un peu dépérir, alors que vous employez, au moins dans votre première partie, des termes ou un niveau très très technique, et vous faites référence à des œuvres qui sont très spécialisées.
Mais écoutez, au début, il fallait absolument montrer quel est le support neurobiologique de nos phénomènes de conscience, et par conséquent de conscience, de vision du monde, etc. Et par conséquent, il a fallu en effet que j'explique ce qui se passe dans un cerveau, et notamment dans un cerveau humain, par rapport à nos devanciers d'espèces, et notamment au chimpanzé. Dire comment tout ça s'est constitué, comment on l'étudie et ce que ces deux cerveaux sont capables de faire. Mais en même temps, il fallait établir dès cette première partie que justement nos deux hémisphères cérébraux ne sont pas interchangeables. Chacun fonctionne sur un registre différent. Ils sont unis par une structure qu'on appelle le corps calleux, mais ils ne réagissent pas de la même façon au monde. Et je pense qu'il fallait l'expliquer avant de passer à ce qui se passe dans une tête. Pour résumer maintenant, je dirais donc, je prendrai l'exemple des droitiers puisque c'est le plus répandu. Chez les droitiers, dans le cerveau gauche, dans l'hémisphère gauche, se situent les centres du langage, de la logique, de l'analyse, alors que le cerveau droit est le siège où arrive les émotions, les connaissances non verbales, les réactions à la beauté ou à la laideur, mais aussi, je dirais, à la bonté ou à la méchanceté, ces réactions quasiment instantanées. Et ces deux hémisphères communique, mais il était important, et ce sont des faits de connaissances récentes, hein, depuis les 30 dernières années, soit dit entre parenthèses, le neurologue qui s'est aperçu le premier de cette différence de localisation a reçu pour cela le prix Nobel en 81, c'est Sperry, un Américain. Depuis, il y a eu une foule d'ouvrages, mais j'ai été très étonné en piochant cette question de me rendre compte que très peu de gens savaient ce qu'il en était de ces différences, alors qu'elles sont fondamentales à la fois pour nous comprendre nous-mêmes et pour nous comprendre autrui, pour juger de nos émotions, éventuellement pour les corriger. Alors, on aura peut-être l'occasion dans cette conversation d'énumérer de façon plus claire les différents registres, mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui comprendre la société, le monde, l'éducation, sans faire référence à ces questions. C'est pour ça que j'aurais évidemment souhaité que beaucoup d'enseignants en particulier lisent le livre. Je ne sais même pas à combien d'exemplaires il a été édité, mais j'ai reçu après sa parution 1 millier de lettres qui passaient par l'éditeur et de gens qui tenaient absolument à me faire des commentaires ou à me poser des questions.
Cette découverte de l'asymétrie cérébrale est une découverte révolutionnaire selon vous, Lucien Israël.
Ah oui, tout à fait révolutionnaire, parce que elle explique que nos deux cerveaux réagissent à des stimuli différents, les combinent, mais aussi de façon différente en fonction de l'éducation, de l'étendue du vocabulaire, de la culture artistique, etc. Les notions qui en découlent sont tout à fait capitales pour redresser le désastre qu'est l'école actuelle, et ne serait-ce que l'illettrisme, qui se comprend parfaitement d'après l'étude physiologique des deux hémisphères et de leur communication. Il faudrait que tous les gens des IUFM, mais aussi tous ceux qui s'accordent le droit parce qu'ils sont dans un cabinet ministériel, de juger de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour l'éducation, soient informés de ces données.
Vous écrivez, page 27 de ce livre, « Le cerveau humain est ce qu'il y a de plus complexe dans l'univers tel qu'il nous est accessible. Il n'y a aucune chance pour que nous nous connaissions nous-mêmes dans notre totalité. » On parle de 10 à 15% d'utilisation de ce potentiel cérébral. C'est le challenge des millénaires qui viennent.
Écoutez, je vais vous dire, on va parler chiffres un petit peu. Hein. C'est le mathématicien de Stephen Hawking qui a fait le calcul. Hein. Il y a dans un cerveau humain 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones. Chacun de ces neurones entretient 10 000 connexions avec les autres, mais qui sont des connexions changeantes en fonction de la situation, du vécu, de la mémoire, etc. Autrement dit, le nombre de circuits potentiels dans un cerveau humain est de 10 puissance 80. Or, 10 puissance 80, personne ne peut se figurer ce que ça veut dire. Et Stephen Hawking ajoute en préface que ça représente non pas le nombre d'atomes, mais le nombre de particules dans l'univers. Donc voilà. Entre autres, ça veut dire aussi quelque chose qui n'est pas l'objet de ce livre. C'est que... dans 5 milliards d'années, quand le Soleil va exploser, si nos successeurs ne sont pas parvenus à quitter la planète, il n'y aura pas eu deux sujets humains identiques. Parce que, en dehors des 10 puissance 80, il y a les différences de vécu et culturelles, les différences génétiques, etc. Donc les circuits s'organisent de façon différente. Donc je ne sais pas si un jour on aura maîtrisé la connaissance de ce phénomène. Ça m'étonnerait, franchement. Il reste beaucoup de choses à découvrir sur la matière et l'univers. Mais alors ça, comme maîtriser, deviner, prédire ce qui peut se passer dans un cerveau humain, je crois que ça ne s'est à tout jamais impossible.
La suite de nos programmes dans un instant.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences. Canal Académie.
Vous venez d'aborder le sujet de l'unicité de l'individu et vous avez aussi dit que deux hémisphères, c'était deux perceptions du monde différentes. Alors finalement, quelle est l'unité ? Comment l'unité entre ces deux hémisphères se fait ?
L'unité se fait par l'intermédiaire d'une structure qu'on appelle le corps calleux et qui est faite de 200 000 fibres, ce qui n'est pas énorme, qui réunit les deux hémisphères. Et Sperry a eu son prix Nobel parce qu'il a étudié des gens qui avaient été commissurotomisés, c'est-à-dire desquels on avait sectionné le corps calleux pour prévenir certaines épilepsies. Ça ne se fait plus aujourd'hui, grâce à Dieu, on a d'autres moyens, mais il y avait pas mal de gens qui avaient subi cette intervention, et il s'est aperçu que les deux cerveaux répondaient à des stimuli différents et engrangeaient des mémoires différentes, que le cerveau gauche était celui où se trouvait le centre du langage et qui comprenait la logique, etc. Alors que le cerveau droit, par exemple, pour prendre un exemple rapide, c'est le cerveau du coup de foudre. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous émeut brusquement, eh bien c'est le cerveau droit qui a réagi. Et le cerveau gauche n'a pas compris ce qui se passait, il sera mis au courant ultérieurement et en partie.
Ces personnes auxquelles on a coupé le corps calleux,
oui.
Est-ce qu'elles n'ont pourtant pas eu l'impression d'être deux personnes à la fois ? Elles ont gardé une certaine unité de mémoire ?
Eh bien,
de conscience de soi.
Non, c'est très difficile. J'ai rapporté dans ce livre l'expérience d'une personne. Bon, on a trouvé le moyen. Sperry avait trouvé le moyen chez ses commissurotomisés d'adresser des informations soit au cerveau droit, soit au cerveau gauche, par des en manipulant le champ visuel, etc. Et par exemple, on montre quelque chose par l'intermédiaire d'une diapositive à une personne commissurotomisée et on lui demande ce que c'est. Et la réponse se fait par l'intermédiaire du cerveau gauche, le centre du langage. On lui dit « qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « je ne sais pas ». Mais si un monsieur, on montre brusquement dans le défilé des diapositives une dame dans le plus simple appareil, eh bien, à la question « qu'est-ce que c'est ?», il dit « je ne sais pas », mais il rougit et il toussote. n'est-ce pas ? Le cerveau droit a parfaitement intégré le message, mais il n'est pas capable de le communiquer à côté, donc le cerveau gauche répond « je ne sais pas ». Non, il ne garde absolument pas ces personnes, il ne gardait pas la personnalité telle que nous la concevons. Ils étaient coupés en deux moitiés qui ne communiquaient plus. Il faut le corps calleux pour justement avoir la perception d'une conscience de soi, interpréter les expériences. Par exemple, on parlait tout à l'heure à ce micro d'un musée et de la belle peinture. Eh bien, la belle peinture, c'est le cerveau droit qui la reçoit et qui en est impressionné, et il y a toute une série de manifestations qui indiquent l'émotion, mais le cerveau gauche est mis au courant et est capable de dire « c'est beau ». Tandis que chez un commissaire automisé, c'est pas possible, il est content mais il sait pas pourquoi.
Mais est-ce qu'il y a des cas de schizophrénie par exemple où on voit vraiment une différence de
personnalité. Non, la schizophrénie n'a rien à voir avec une commissurotomie. C'est une atteinte des deux cerveaux et pas de leur communication.
Vous parliez de conscience. Et la conscience ?
Eh bien, la conscience, il y a une conscience verbale et puis une autre. La conscience verbale, alors elle dépend, entre autres choses, du registre lexical et de la finesse sémantique. C'est-à-dire que, en français, il y a à peu près 80 000 mots, quelque chose comme ça. Bon, il y a des langues où il y en a plus, des langues où il y en a moins. Mais bon, avec 80 000 mots, on peut se représenter le monde, poser des jugements sur le monde et sur soi-même. On peut enregistrer, penser toute une série de phénomènes, la totalité du monde et de l'univers, et faire de la science, trouver des choses nouvelles, etc. Encore faut-il que, au-delà de ce registre lexical, il y ait justement la finesse grammaticale qui permette d'appréhender les rapports de causalité, de temporalité, de suggestion, etc. Bien. Alors ça, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir, c'est le rôle de l'éducation. Et c'est absolument fondamental parce qu'il y a un âge au-delà duquel ça ne rentre plus, ou ça ne rentre que très insuffisamment. Par conséquent, il faut commencer à l'école primaire à donner à la fois un vocabulaire le plus étendu possible, mais aussi le sens et le goût de la lecture pour que cela puisse se prolonger. Le cerveau droit, eh bien lui, il enregistre des impacts et des émotions non verbalisées. Mais c'est aussi très important, et là encore, à l'école, on devrait jouer de la grande musique plutôt que du rap ou du rock. Je me suis fait un jour attraper, si j'ose dire, dans une interview à la télévision là-dessus, parce que je ne dirai pas le nom de celui qui m'interviewait, mais qui m'a dit « vous pouvez partir parce que vous êtes contre le rock, alors ça ne m'intéresse pas ». Mais il vaut mieux faire écouter aux enfants du Bach et du Mozart, parce que ça grandira leur sens de l'harmonie et de la beauté. Ils seront différents, de même si on leur a montré de beaux paysages, si on les a initiés à la poésie, etc. Autrement dit, il faut avoir éduqué ces deux hémisphères cérébraux dans leurs registres différents pour atteindre le potentiel maximum d'un être humain. Et pour savoir s'interroger, se fixer à la fois des valeurs et des goûts, mais aussi des notions, et puis être capable, le cas échéant, d'en changer en fonction de données extérieures ou de sa propre réflexion, et aussi pour soupçonner qu'il existe la même subjectivité chez autrui, et que c'est aussi un être humain et qu'on ne peut pas décider de lui taper dessus quand il vous revient pas, comme on ferait pour un animal.
En France, l'illettrisme touche 2 millions de personnes.
Oui.
Alors, la deuxième partie de votre ouvrage, justement, aborde des problèmes, mais sur le terrain, des problèmes d'ordre concret. Alors, contre l'illettrisme.
Alors, il y a un véritable drame en ce qui concerne l'illettrisme, c'est l'usage depuis une trentaine d'années, ce qui ne se faisait pas avant dans les écoles primaires, de la méthode globale de lecture. Bon. Alors maintenant, ils se défendent en disant qu'ils utilisent une méthode semi-globale. D'accord. Mais la méthode syllabique, c'est la seule qui, du reste, depuis l'invention de l'écriture, je dirais, hein, enfin depuis quelques milliers d'années, a été utilisée, a donné les résultats que l'on sait avec la culture que les humains ont bâtie peu à peu. À l'école maternelle, qui était située rue de Chabrol, à Paris, dans le 10e arrondissement, eh bien, avec toute la classe, on chantait Béaba, Béaba, etc. Bien. De façon à réciter par cœur les syllabes, et puis après les repérer par la lecture. Et c'est de cette façon que, à 5 ans, un enfant savait lire à toute vitesse et tout. Et par conséquent, une fois qu'il le savait, eh bien, il lisait et on l'intéressait progressivement. Il n'arrêtait pas de lire pendant sa vie. Il prenait connaissance ainsi du monde, de lui-même et d'autrui. Bien. Un illettré fabriqué par l'école, parce que ça ne dépend pas de sa condition génétique, ça dépend de l'apprentissage qu'on a fait. On s'adresse, avec une méthode globale, on s'adresse au cerveau droit, celui qui enregistre les affects, les émotions, etc., et non pas au cerveau gauche qui est tenu en dehors de cette réalité, et par conséquent, on fabrique des gens qui n'auront qu'une vue extrêmement fragmentaire du monde, d'eux-mêmes et d'autrui, et qui ne pourront pas coopérer aux grandes tâches que peut s'assigner une société humaine. Ils n'auront que des émotions, et en plus, comme on n'aura pas non plus cultivé le sens de la beauté, et qu'on les enferme aussi dans des banlieues, etc., et qu'on les blesse et qu'on les châtie par la laideur de tout l'environnement, eh bien, ils sont malheureux et violents. On est en train de fabriquer aujourd'hui, à la suite des idéologues qui ont décidé d'utiliser la méthode globale pour remplacer la méthode syllabique, on est en train de fabriquer des sous-humains, c'est un vrai drame.
Le latin pour enraciner la langue ?
Alors, le latin aussi, bien entendu, à cause d'une part de son intériorité et sa complexité grammaticale, mais aussi des étymologies qui se ressemblent. Cela dit, le latin n'était pas obligatoire. Il y avait des quantités de jeunes gens qui n'allaient pas dans les lycées et qui avait été enseigné seulement dans l'école primaire, mais l'école primaire, avec le certificat d'études, il savait parfaitement lire, et il pouvait lire des choses de plus en plus complexes. Alors le latin, c'est un ajout supplémentaire.
La suite de nos programmes dans un instant.
Canal Académie.
Êtes-vous écouté, Lucien Israël, dans tous les conseils que vous donnez à tous qui vous parliez de l'éducation nationale, on parle des chercheurs.
Je vais vous donner la primeur d'une information. À l'Académie des sciences morales et politiques à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, il y a un petit groupe qui a décidé de s'occuper de l'illettrisme. Et avec des compétences différentes, mais importantes. Et donc, nous avons essayé d'être entendu par la réunion à Paris de la commission TENO, celle qui était chargée récemment encore de discuter des problèmes de l'éducation et de l'illettrisme. Et on nous a fait savoir que le nom des personnes autorisées à poser des questions dans cette réunion était déjà fixé et que la liste en était close.
Une dernière question, Nathalie.
Justement, à propos de la méthode globale ou de la méthode syllabique, vous avez abordé dans votre livre le sujet du Japon. Oui. Où il se trouve qu'il y a deux alphabets, un alphabet syllabique et un idéogramme. Et justement, vous disiez que ces deux alphabets permettaient de faire progresser à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche.
Les petits japonais sont les seuls au monde qui ont deux systèmes de lecture, le kanji et le kanja, enfin peu importe. Il y a un système d'idéogramme hérité du chinois et qui est une représentation globale. Un idéogramme représente non pas un son ou une syllabe, mais un mot ou un concept. Et donc, ça c'est saisi par le cerveau droit, et puis un alphabet qui est saisi par le cerveau gauche. Donc le petit japonais est le seul sur cette planète dont on éduque dès l'enfance les deux hémisphères cérébraux à la fois. Bon, cela dit, alors la méthode syllabique c'est évidemment totalement décisif, mais ce n'est peut-être pas par hasard que les japonais voient chez eux très répandu dans toute la jeunesse tout ce qui est beau, la voix des fleurs, etc. Bien, alors les neurologues qui ont étudié ces questions se sont rendus compte qu'il y a donc une communication non verbale. Il se trouve que dans un dialogue avec autrui, nous communiquons 75% de données non verbales par notre attitude, la direction du regard, la position, le vêtement, la prosodie de la voix. Bon, je dis quelque part dans ce livre que les publicitaires le savent et qu'ils enseignent aux hommes politiques comment faire des discours, mais quand ils font ça parce qu'ils l'ont appris et que c'est pas naturel, le cerveau droit de ceux qui les regardent enregistre immédiatement que c'est faux. Bon. Donc il faudrait les prévenir.
Lucien Israël, vous écrivez dans le livre paru chez Plon, Cerveau droit, cerveau gauche, culture et civilisation. Il y a quelque chose dans l'univers d'encore plus complexe que le cerveau humain, c'est une société de cerveaux. Vous écrivez, on sait prévoir des éclipses de soleil, mais certainement pas l'effet sur une société donnée d'une loi ou d'un changement quelconque dans ses rouages. Et vous ajoutez, cette planète avec ses cultures étrangères les unes aux autres, que le développement des techniques permet maintenant de mettre en contact, n'a pas fini de créer des surprises. Et il vaudrait mieux qu'elle les réserve, cette planète, à des scientifiques qu'il étudierait objectivement plutôt qu'à des nations emportées d'un coup par des tourmentes imprévues. La recherche a une place.
Oui. Non, mais bien sûr, de toute façon, on n'y peut plus rien. Hein. Maintenant, il y a la nature a mis 8 milliards de cerveaux humains sur une seule planète. À eux de se débrouiller. Et visiblement, c'est pas facile. Ils ont inventé les guerres avant d'inventer les réunions pour la paix. Bon, et puis ils ont inventé des guerres entre eux aussi, etc. Mais on peut maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire que le cerveau humain, parce que par son intermédiaire, la matière se connaît elle-même. C'est quand même étrange, et elle va se connaître de plus en plus dans ses détails. Alors la sociologie n'est pas encore une science, puisque les sciences c'est fait de ce qu'on peut prédire et vérifier. Mais on en saura de plus en plus sur les attitudes humaines, sur ce qui mobilise les cerveaux, sur ce qui leur donne un sentiment d'appartenance ou au contraire un sentiment de rejet. Et je pense que les politiques devraient être très informés de ce qui se passe entre cerveau droit et cerveau gauche. Ils ne le sont pas, donc ils ne se connaissent pas eux-mêmes, mais ils régentent les autres.
Sur cette belle conclusion, merci professeur Israël, merci Nathalie Ray d'avoir participé à Temps contre Temps.
Merci.